Bonsoir, je suis ravi d'être là. Je voudrais en profiter pour vraiment féliciter les organisateurs. J'ai moi-même, avec la collaboration très efficace à l'époque de Madame Chambon, qui, j'en doute pas, est toujours très efficace, et du bureau de l'IUF, organisé les journées de l'IUF à Marseille en l'an 2000. Et je sais combien c'est quand même du travail d'organiser tout ça. Donc félicitations à vous tous. C'est une belle journée. Moi, j'ai appris plein de choses personnellement. J'aimerais vous parler de biologie. J'aimerais vous parler en fait d'immunologie. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de votre organisme en ce moment. En fait, le système immunitaire dont je vais vous parler, c'est quelque chose dont on s'aperçoit qu'il existe quand il ne marche plus. Et c'est malheureusement quelquefois trop tard. En fait, on est tous en ce moment même en train de lutter contre 2, 3, voire plus maladies bactériennes éventuellement mortelles, 2, 3 cancers, quelques dizaines de maladies auto-immunes, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Ça va bien se passer parce que vous avez un système immunitaire qui a été sélectionné par l'évolution de telle manière à faire en sorte que ça se passe bien, même si c'est une présentation un petit peu finaliste. Donc c'est un petit peu ce voyage dans le système immunitaire que je vais vous présenter extrêmement brièvement, et en particulier en faisant un focus particulier sur des cellules que vous connaissez très bien depuis ce matin, puisque Jean-Marie-Laine a parlé des cellules natural killer. Il a dit que killer, mais bon, il ne le savait pas. Mais en fait, l'ensemble de ma présentation est basé sur ces cellules. Donc ça fut une introduction parfaite. Donc je ne vais pas vous refaire un cours d'immunologie, mais il me semble qu'il y a quand même des caractéristiques extrêmement importantes à l'organisation du système immunitaire chez les animaux, qui me paraissent importantes à être récapitulées ici. Donc le système immunitaire est classiquement divisé en deux parties. Premièrement, le système immunitaire dit inné, et c'est celui-là dont je vais vous parler, mais aussi le système immunitaire adaptatif, et je suis obligé d'y faire allusion. Alors qu'est-ce que c'est que le système immunitaire inné ? Eh bien, c'est le système immunitaire qu'il y a chez tous les métazoaires, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas un être unicellulaire, mais qu'on y a plus d'une cellule, eh bien, il y a des mécanismes de défense de cet organisme contre pas mal d'infections, qui peuvent être des infections, bien évidemment, donc microbiennes, mais aussi, et je l'ai évoqué très rapidement, contre des pathologies tumorales qui peuvent se développer à tout instant à l'intérieur de l'organisme, mais aussi en réponse à des attaques, qui peuvent être des attaques chimiques ou des attaques physiques. Et ces cellules forment ce système immunitaire inné. Alors, les cellules que j'ai représentées ici sont celles qui sont présentes chez les vertébrés, mais il existe un système immunitaire inné chez tous les métazoaires, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut s'apercevoir quand même que 90% des espèces d'animaux sur la planète n'ont que ce système immunitaire. Et ce système immunitaire est donc largement suffisant pour permettre l'évolution et la propagation des espèces sur notre planète. Chez l'homme, c'est un petit peu plus compliqué, et chez les vertébrés de manière générale, c'est un peu plus compliqué parce que ce système immunitaire inné n'est pas suffisant. Et il faut un deuxième système, qui est le système immunitaire adaptatif, que vous connaissez certainement, puisque dans ce système immunitaire adaptatif, il y a deux types de cellules particulières qui sont les lymphocytes T d'un côté, les lymphocytes B de l'autre côté, et vous devez tous savoir quand même qu'il existe des anticorps, et ces anticorps sont produits par ces lymphocytes B. Alors ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre ce système immunitaire inné et ce système immunitaire adaptatif, et les différences entre ces deux systèmes. Premièrement, vous voyez que le système immunitaire inné, c'est un ensemble de cellules. J'en ai représenté que quelques-unes ici. Ces cellules, elles sont partout dans l'organisme. Et encore une fois, en ce moment, elles sont en train de vous permettre de sortir de la salle en étant en aussi bonne santé qu'en y arrivant. Enfin, du moins, je l'espère. Ces réponses immunitaires innées, elles ont lieu de manière continuelle, partout dans l'organisme, comme je viens de le dire, à la différence des réponses qui sont celles du système immunitaire adaptatif, donc lymphocyte T ou lymphocyte B, qui, elles, sont initiées uniquement dans les ganglions, c'est les fameux ganglions lymphatiques, ou éventuellement aussi dans l'amygdale, dans les amygdales, ou dans la rate. Et ces réponses de l'immunité adaptative mettent des jours à se mettre en place. Et donc, si on veut un peu filer une métaphore à partir d'un combat entre le système immunitaire et des agresseurs extérieurs, en fait, on peut considérer que le système immunitaire inné représente une première ligne de défense, des sentinelles qui sont partout, pardon, à l'interface avec le milieu extérieur. Donc, on va y retrouver en particulier ces cellules dans les épithéliums, épithélium digestif ou respiratoire, urogénital ou dans la peau, mais pas uniquement. Et elles vont donc permettre, en quelque sorte, de baisser la charge infectieuse ou les premiers dommages en ayant véritablement des réponses effectrices. C'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, dans le cas d'une infection virale, les cellules dont je vais vous parler, qui sont les cellules natural killer, vont avoir la possibilité incroyable d'aller tuer sélectivement les cellules infectées par des virus, tout en épargnant les autres cellules. Et ça va permettre donc de contenir dans un premier temps cette infection virale. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, chez l'homme et chez les vertébrés de manière générale, ce premier contrôle n'est largement pas suffisant. Et il doit y avoir un deuxième type de réponse immunitaire. Et vous voyez là qu'il y a une deuxième flèche donc, qui s'additionne à cette première flèche de la réponse immunitaire innée comme sentinelle. Et cette deuxième flèche, ça veut dire que le système immunitaire inné est capable d'induire la réponse immunitaire adaptative. Donc cette dualité de fonction est extrêmement intéressante. Et pour les cellules NK dont je vais vous parler, c'est une natural killer, hein, N pour natural, K pour killer, et bien on va voir que si la réponse effectrice, c'est de tuer des cellules directement infectées par des virus, comme je viens de vous le dire, et bien la réponse qui permet d'induire la réponse immunitaire, c'est adaptative, c'est à travers la production d'hormones immunitaires, en quelque sorte, qui sont les cytokines. Donc voilà pour l'organisation générale de cette réponse immunitaire. Nous, ce qu'on essaie de faire dans notre laboratoire, c'est d'utiliser des modèles de souris afin de mieux comprendre in vivo comment une cellule NK va pouvoir interagir avec une cellule cible. Et là, on voit une cellule natural killer en train d'interagir avec une cellule tumorale. Et en particulier, de savoir comment cette cellule-là va pouvoir sélectivement reconnaître ces cellules tumorales tout en épargnant les cellules qui sont, elles, normales. Et on pense que cette connaissance nous permettra de mettre en place de nouvelles thérapies. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque c'est déjà le cas. Alors, l'implication des cellules natural killer dans notre protection immunitaire intervient dans le contrôle des infections virales, je l'ai déjà dit, dans l'élimination des tumeurs, mais aussi dans la reproduction, puisqu'il est assez intéressant de voir que l'utérus gravide, au cours de la gestation, est littéralement envahi par ces cellules natural killer. Et on pense que ces cellules ont été sélectionnées par l'évolution, en partie parce qu'elles favorisent l'afflux de sang pour pouvoir nourrir l'embryon. Alors, je vais vous montrer quand même quelques résultats expérimentaux pour vous montrer qu'effectivement, c'est mieux d'avoir des cellules natural killer. En fait, ce que vous avez là, c'est un modèle de souris dans lequel on a injecté un mélanome métastatique. Ce n'est pas très sympa comme expérience à faire pour la souris, mais je pense que ça illustre bien le rôle des cellules NK. Donc, vous avez des cellules qui sont des cellules tumorales, qui sont des cellules de mélanome, donc qui vont se développer sous la forme de taches noires. Et vous voyez que quand on injecte en intraveineux ces cellules tumorales dans une souris, alors qu'elle n'a pas de NK ou que les cellules qu'elle a n'ont pas d'activité, vous voyez qu'il y a le développement d'un processus métastatique de mélanome. Il s'agit là d'un lobe pulmonaire. Vous voyez qu'au contraire, si on injecte la même dose de cellules tumorales alors que les cellules NK sont présentes, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de développement tumoral. De la même manière ici, dans le cadre d'une infection virale, là, il s'agit d'une coupe de foie, il s'agit d'une souris qui est infectée par un herpès virus. Ce que vous voyez, c'est que quand il y a des NK, en fait, ce que vous voyez, c'est rien, c'est-à-dire qu'il y a un parenchyme hépatique qui est totalement normal, il s'agit d'un foie normal, alors que si les cellules NK ne sont pas là ou sont déficientes, vous voyez peut-être, puisque je ne suis pas sûr à cause des couleurs, mais là, une plage de lyse, vous voyez, une couleur différente qui est délimitée par ces flèches blanches et qui montre qu'il y a une nécrose du foie, ce qui montre bien qu'il y a à la fois un contrôle des pathologies tumorales et un contrôle des pathologies virales par ces cellules natural killer. Alors, comment elles font ça? Elles font ça de deux manières différentes, comme je vous l'ai déjà dit. Premièrement, en reconnaissant directement des cellules en les tuant. Et deuxièmement, en servant d'inducteur à la réponse immunitaire adaptative, celle qui va conduire à la production d'anticorps. Alors, vous comprenez bien que, encore une fois, les mécanismes qui permettent à la cellule NK de distinguer entre une cellule normale et une cellule qui ne l'est pas sont effectivement importantes pour nous. Imaginez, par exemple, dans cette salle, qu'on se dise, eh bien, 10% d'entre nous, puisque en fin de compte, les cellules NK représentent à peu près 10% des lymphocytes, ont le droit d'être armés avec des kalachnikovs qui sont prêts à tirer. Je pense qu'on se mettrait d'accord sur les règles d'utilisation avant de permettre cette règle. Bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'organisme. Dans l'organisme, vous avez 10% de vos lymphocytes qui sont capables d'aller tuer en quelques minutes d'autres cellules. D'où l'idée d'essayer de savoir comment elles font cette reconnaissance sélective. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, mais j'aimerais insister sur le fait que maintenant, en biologie, on peut vraiment voir les choses et à des échelles extrêmement petites. Et je pense que vous êtes tous conscients des progrès qu'a qu'on fait faire à la médecine les progrès de l'imagerie médicale, eh bien, il en est de même pour la biologie. Donc là, vous voyez par exemple, là, en microscopie confocale, où sont les cellules NK à l'intérieur de l'organisme, par exemple là dans l'intestin ou là dans la rate. C'est une affaire de spécialiste, mais il faut se rendre compte qu'on peut voir ça. On peut faire aussi des films. Et je vais vous montrer donc un film où on voit une cellule NK qui, en fin de compte, attire une cellule cible. En fait, cette cellule cible a déjà eu une interaction avec la cellule NK, mais elle n'a pas été tuée pour la première fois. Mais quand elle est repartie, en fait, elle a laissé un fil à la patte, en quelque sorte, un bout d'elle-même qui était collé à la cellule NK. Et vous allez voir, avec un petit peu d'imagination, le fil est là. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous allez le voir mieux avec le film. Eh bien, en fait, elle tire, en quelque sorte, la cellule cible à elle-même. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc, vous voyez la cellule cible qui est là, une cellule tumorale qui se déplace. Et vous voyez le fil, là. Et la cellule NK est là. Et on a l'impression qu'elle se sert de ce fil pour ramener la cellule cible à elle-même. C'est pour vous montrer qu'on peut faire de la vidéomicroscopie, ce qui permet quand même de plus voir le vivant. Et je pense qu'on peut passer des heures à regarder ces images tellement elles sont belles. C'est pas parce que je les ai pas faites moi-même. Donc, je peux en parler vraiment tranquillement. Mais je trouve qu'elles sont belles quand même. On peut aussi faire de la microscopie intravitale. Donc là, dans un modèle de souris, on peut endormir la souris et aller regarder la migration des cellules à l'intérieur de l'organisme. C'est-à-dire véritablement la réponse immunitaire en marche. Et vous pouvez imaginer l'intérêt d'avoir ça. Là, par exemple, vous voyez en accéléré le mouvement des lymphocytes, qui ne sont pas des cellules NK, mais c'est juste une illustration de ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un organe lymphoïde. Alors, pour en venir aux cellules NK, on peut manipuler le génome des souris de telle manière à rendre les cellules NK fluorescentes, et uniquement les cellules NK fluorescentes. Et vous pouvez imaginer donc l'intérêt d'avoir ce modèle de souris. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais en manipulant le génome de la souris, on peut faire ça. Et quand vous avez une cellule NK, elle va devenir fluorescente, alors que les cellules qui ne sont pas NK ne sont pas fluorescentes. Alors, donc ça, on peut le voir ici, mais enfin, peu importe. Donc, pour vous montrer un film, bien voilà, dans cette souris maintenant, vous voyez que les cellules NK, vous les voyez, et vous voyez uniquement les cellules NK en live à l'intérieur d'une souris sous anesthésie. Alors, je peux vous montrer juste une illustration, je l'avais pour d'autres cellules que les cellules NK qui sont les neutrophiles, de l'importance de ces techniques et de l'importance aussi de la réponse immunitaire innée. Il s'agit maintenant d'une souris, voici la peau, qui a été injectée par un parasite. Le parasite, c'est Leishmania. Ce parasite, en fait, il est là, il est en rouge, vous ne le voyez pas beaucoup ici. Et vous allez voir l'influx, le temps ici, de certaines cellules de l'immunité innée. Et quand on enlève ces cellules de l'immunité innée, la souris elle va simplement mourir, alors que là, elle va se défendre. Et vous allez comprendre comment. Vous voyez cet influx incroyable de neutrophiles qui vont juste au point où il y avait la Leishmania. Il s'est passé 1h08. Je vous le repasse parce que moi, je le trouve joli ce film, hein, personnellement. Je ne sais pas vous, mais... Et ça se passe en ce moment dans votre organisme. C'est quand même incroyable, non ? On peut dire merci à ça, hein, quand même. Alors, maintenant, on peut aussi regarder les choses à une autre échelle. Et donc là, c'est pour cette illustration pour vous montrer la rapidité avec laquelle les cellules NK sont capables de reconnaître sélectivement leurs cibles tout en épargnant des cellules normales. Là, il faut imaginer deux cellules NK. En fait, on voit que le noyau de la cellule NK. Et ce que vous voyez en vert, en fait, ce sont des petits granules à l'intérieur de la cellule NK qui sont pleins de molécules toxiques. Et en fait, les cellules NK vont libérer ces molécules toxiques quand elles sont en contact avec une cellule qu'elles doivent éliminer, comme une cellule tumorale. Donc la cellule tumorale, vous la voyez ici. Donc à T0, hein, vous avez un lymphocyte NK qui est là, un autre lymphocyte NK qui est là, et les granules pleins de molécules toxiques sont réparties à travers le cytoplasme. Vous voyez maintenant, en 10 minutes, ce qui s'est passé ? La localisation, la relocalisation complètement incroyable de tous ces granules cytotoxiques à l'interface entre la cellule NK et la cellule tumorale. Ce que vous aurez remarqué, c'est qu'il n'y en a pas là. C'est-à-dire que cette diapositive illustre en un seul coup d'un seul le seul fait que la cellule NK est sélectivement capable d'organiser toute sa réponse toxique contre une cellule tumorale, alors que dans le même temps, elle est capable d'ignorer une cellule normale, en l'occurrence une autre cellule NK. Donc c'est la tolérance des cellules NK et l'intolérance des cellules NK. Et en fait, si on essaye d'imager le fonctionnement du système immunitaire, c'est exactement comme ça, c'est exactement comme un bon médicament. Il faut qu'il soit à la fois efficace tout en étant non toxique. Alors, ceci a été sélectionné par l'évolution, et en fait, moléculairement, on a la chance, le privilège de savoir comment ça marche. Et c'est représenté ici. Ce que vous avez ici, là, c'est une cellule NK dans deux circonstances différentes. En fait, cette cellule NK, elle est équipée de deux types de récepteurs, des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. Alors, essayez d'imaginer des freins et des accélérateurs. Et là, vous allez tout comprendre. Il se trouve que dans une situation normale, la cellule NK peut reconnaître des molécules qui sont très, très exprimées par la quasi-totalité des cellules de l'organisme, qui sont les molécules de classe 1, mais peu importe leur nom. Il se trouve qu'il y a des récepteurs inhibiteurs qui reconnaissent classe 1, comme une espèce de carte d'identité de la bonne santé des cellules. Et à l'inverse, il n'y a pratiquement rien pour activer la cellule NK. Vous voyez, hein, là, il y a trois pastilles grises qui vont rentrer en contact avec des récepteurs inhibiteurs, alors qu'il n'y en a qu'une verte avec des récepteurs activateurs. Donc vous montez dans votre voiture, vous accélérez un tout petit peu, vous êtes à fond sur les freins. Est-ce que la voiture marche? Non, elle n'avance pas. C'est exactement ce qui se passe quand une cellule NK reconnaît une cellule normale. Maintenant, vous voyez, quand cette cellule normale devient une cellule stressée, et dans le terme de stress, on implique à la fois soit une transformation tumorale, soit une infection par des virus, soit une infection par d'autres microbes, soit un stress physique ou chimique. Vous voyez qu'il y a un changement radical dans la densité des molécules exprimées à la surface de cette cellule, où il y a beaucoup moins de molécules pour appuyer sur le frein et beaucoup plus de molécules pour appuyer sur l'accélérateur. Et c'est dans cet équilibre dynamique entre des freins et des accélérateurs moléculaires que s'organise la réponse NK. Alors c'est très intuitif, hein, mais il se trouve que ce n'est pas un schéma simpliste, il pourrait être simpliste, il n'y est pas, il est juste simple, et c'est quand même pas mal pour une fois en biologie, parce que ce schéma, il rend compte en fait de l'activation des cellules NK humaines et souris à la fois in vivo et in vitro. Donc c'est quand même extrêmement puissant. Alors bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que dans l'interface entre la cellule NK et la cellule cible, en fait il y a une espèce de fermeture éclair comme ça qui se met en place, où il y a des interactions moléculaires qui permettent à la cellule NK d'intégrer véritablement la carte d'identité de la cellule en face. Donc la cellule NK, comme toute autre cellule, hein, apprend à compter. Elle sait compter en réalité le nombre de molécules qui vont l'activer versus le nombre de molécules qui vont l'inhiber. Elle fait l'intégration de tout ça, et en fonction de ça, bah, soit elle va tuer cette cellule, soit elle ne va pas la tuer. Alors, voilà, le concept est représenté ici, en particulier dans le cas des pathologies tumorales, où en fait, quand une cellule qui était normale va devenir une cellule tumorale, en fait, il y a plein de mécanismes qui contrôlent le fait qu'une cellule qui a des événements pas clairs dans le noyau va rentrer elle-même en apoptose, va se suicider, ne va pas se multiplier. Mais il se trouve qu'il y a d'autres mécanismes qui sont des barrières extrinsèques au développement du cancer, qui sont exactement ceux dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que quand une cellule normale devient une cellule stressée, suite à la transformation tumorale, elle va maintenant exprimer à sa surface des molécules qui maintenant sont reconnues par la cellule NK. Donc vous comprenez pourquoi la cellule NK ne peut pas reconnaître celle-là, parce que simplement il n'y a rien pour qu'elle puisse être reconnue, alors que cette cellule stressée va être reconnue à la faveur de ces molécules maintenant qui sont reconnues par des récepteurs activateurs. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi faire tout ça? Bon, je pense que la réponse à ça, c'est parce que simplement, nous, ça nous intéresse. Je pense que la curiosité est quelque chose d'extraordinaire chez l'homme et qu'il faut l'entretenir. Et je pense que c'est la justification de la recherche fondamentale. Il ne faut pas en chercher d'autres. Mais cela dit, on peut aussi imaginer des utilisations de cette connaissance à des fins thérapeutiques. Et c'est ce qui s'est passé dans notre laboratoire. Et j'aimerais, en deux minutes, vous raconter un petit peu cette histoire. Et là, en fait, on va parler d'immunothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie? Eh bien, c'est l'idée de pouvoir soigner des patients grâce à la modulation du système immunitaire. Okay, on peut le faire de deux manières différentes. Il y en a une que vous connaissez bien, c'est la vaccination. C'est préventif, hein, c'est de la prophylaxie. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre une infection virale, eh bien, on va monter une réponse immunitaire contre le virus grâce à un vaccin, de telle manière que quand le virus va arriver, eh bien, l'organisme soit défendu. Bon, ça, c'est une forme d'immunothérapie qui est plutôt qui n'est pas de la thérapie, qui est de la prophylaxie, encore une fois. Mais quand on est un immunothérapeute, en fait, on peut faire un rêve. Donc ça, c'est le rêve de l'immunothérapeute. Le rêve de l'immunothérapeute, c'est que, en fait, quand on a un patient, eh bien, dans ce patient, il y a deux types de cellules. Ce patient, c'est un malade, donc il a des cellules normales et des cellules malades. Et l'idée, en fait, c'est soit grâce à un médicament, soit grâce à des cellules, d'aller éliminer sélectivement les cellules malades tout en épargnant les cellules bien portantes. Alors là, c'est le rêve de l'immunothérapeute cellulaire, c'est-à-dire celui qui considère qu'il va pouvoir soigner un patient en injectant des cellules. Et donc, cet immunothérapeute cellulaire, il définit quelque chose d'extrêmement vague, un effecteur humain, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, mais il y en a plein la littérature. Donc, cet effecteur humain qui serait identifié, isolé à partir d'un donneur, et donc par une opération magique, l'injection de ces cellules du donneur chez le patient permettrait d'éliminer ces cellules-là tout en gardant ces cellules-là. J'ai bientôt fini. Alors, Encore une fois, c'est un rêve, mais je pense qu'il est compréhensible. Alors imaginez maintenant, je ne vais pas changer grand-chose, je rajoute simplement ça. Imaginez un système dans lequel les cellules normales exprimeraient des molécules qui seraient reconnues par des récepteurs inhibiteurs, et les cellules stressées seraient reconnues par ces cellules-là, par l'intermédiaire d'un récepteur activateur. À ce moment-là, ça marche. On injecte ces cellules-là dans le patient, ces cellules-là ne vont pas être tuées parce qu'elles seront inhibées, ces cellules-là seront tuées parce qu'elles activent. C'est exactement ce que je viens de vous raconter pour les cellules NK, et pour faire très court, parce que je vois que vous me faites des gros yeux, en fait, c'est ce qu'on fait déjà chez l'homme, en injectant soit des cellules NK en jouant entre le donneur et le receveur, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, je vais plutôt vous montrer les résultats quand même des expériences qui ont été réalisées dans ce cadre, dans le cas de la leucémie aiguë myéloïde, quand on joue sur les cellules NK, de telle manière à ce que les cellules NK qu'on va injecter chez le patient qui a la tumeur ne sont pas inhibées chez ce patient à cause de ce système de reconnaissance des molécules inhibitrices. Il y a 0% de rechute à 5 ans. Et ça, c'est des vraies données chez l'homme. Hein. C'est des données de Régis, ce n'est pas un modèle animal. Alors qu'il y a 85% de rechute à 5 ans quand les cellules NK sont inhibées chez le receveur. Encore une fois, donc, si on injecte des cellules NK et qu'elles ne sont pas inhibées, il y a 0% de rechute à 5 ans dans le cadre de cette leucémie, alors qu'il y a 85% de rechute à 5 ans quand les cellules NK sont inhibées. Ce qui nous a donné l'idée, nous, de faire des anticorps monoclonaux qui vont inhiber les récepteurs inhibiteurs. Et c'est ce qui est développé maintenant en clinique, en phase 2, et c'est une illustration de comment un chercheur qui fait uniquement de la recherche fondamentale peut quand même s'intéresser à la clinique, sans que la clinique ne serve de moteur à son inspiration scientifique. C'est quand même important. Merci beaucoup.
Alors, il y a une question d'un littéraire, peut-être, dans la salle. Non ? Une petite question ? Moi, j'ai envie d'en poser une, quand même, avant de te libérer.
Merci.
Par rapport aux pathologies qui nous posent problème en ce moment, qui sont en général autour de nous, les cancers, est-ce que ce concept peut être, comme ça, sur le plan théorique, applicable à tous les cancers, ou pas ?
Non, en fait, tu sais très bien que le cancer, on ne devrait pas parler de cancer, mais d'un cancer, mais de cancer avec un S. Chaque patient qui porte une tumeur a pratiquement une maladie unique. Il est très difficile donc de pouvoir a priori savoir quel va être le meilleur traitement. On parle de médecine personnalisée, c'est en plein là-dedans. Donc on sort justement des tests diagnostiques de telle manière à pouvoir véritablement délimiter les indications d'une thérapie basée sur la manipulation des récepteurs inhibiteurs ou activateurs sur les cellules NK. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Par exemple, dans les résultats que j'ai montrés, dans lesquels si on injecte des cellules NK, on a 0% de rechute à 5 ans. Ça marche pour la leucémie myéloïde aiguë, ça ne marche pas du tout pour la leucémie aiguë lymphoblastique. Donc dans un type de leucémie, ça va marcher, dans un autre type, ça ne va pas marcher. Et il y a plein de raisons qui permettent de comprendre pourquoi ça marche dans un cas et pourquoi ça ne marche pas dans l'autre.
Et comme ça, a priori, tu serais capable de donner un pourcentage des cancers que tu pourrais traiter avec ces approches ?
Absolument pas. Non. Absolument pas, malheureusement, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Il y a une question ici.
Ouais, merci.
Oui, donc là, vous avez montré que les molécules, les MHC de classe 1 étaient plus bas dans les cellules stressées. Mmh. Donc, première question, qu'est-ce qui provoque en fait cette diminution ? Quel est le mécanisme ? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que donc des cellules cancéreuses échappent en fait à ce schéma qui semblait simple ?
Oui, tout à fait, c'est une excellente question. Pour répondre à la première question, je vais prendre un exemple, celui des infections virales, en particulier par le cytomégalovirus, qui est une famille de virus à herpès extrêmement largement répandue. Et en fait, il faut savoir que les molécules de classe 1, elles servent à d'autres lymphocytes, comme les lymphocytes T tueurs, pour au contraire être reconnus. Et donc il y a eu un phénomène d'échappement viral, une stratégie virale, en quelque sorte, qui a consisté à produire des molécules suite à l'infection par CMV, donc des molécules du CMV elle-même, à l'intérieur de la cellule infectée, qui permettent de retenir les molécules de classe 1 à l'intérieur de la cellule. De telle manière que, même si c'est très finaliste dans la manière de le formuler, d'échapper à la reconnaissance T. Et dans le même cas, ça devient effectivement des cibles pour les CUNK. Donc il y a un autre phénomène d'échappement viral qui consiste, pour d'autres protéines du même virus, à contrôler l'expression des récepteurs, enfin, des ligands activateurs également. Donc on voit quand même que, et je pense que cet exemple est pas mal parce qu'il donne un argument évolutif, je pense que la pression de sélection exercée par les CD8, évidemment, mais aussi par les NK, n'est peut-être pas négligeable, puisque les virus ont inventé des stratégies pour y échapper. La deuxième question, c'était...
La question de l'échappement de certaines cellules cancéreuses à ce mécanisme.
Là aussi, je pense qu'on peut imaginer le développement du cancer comme un processus totalement darwinien. C'est-à-dire que bon, si on est tous en train de développer 3-4 cancers en ce moment, mais que ça va bien se passer, ça va bien se passer jusqu'au moment où, en fait, compte, il va rester une ou deux cellules qui seront des mutants et qui ont réchappé pour une raison ou une autre, soit parce que les lymphocytes ne peuvent pas aller à l'endroit où il y aura le développement tumoral, soit parce que dans le cas des NK, il y a passé de ligands activateurs, ou soit parce qu'elles maintiennent un très très haut niveau de molécules de classe 1. Mais donc, il y a effectivement plein de stratégies d'échappement tumoral qui concourent au fait que quand on voit des patients qui ont le cancer, c'est parce qu'ils ont le cancer, par définition, et que donc toutes leurs stratégies de défense immunitaire contre le cancer ont échoué.
Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des mutations qui sont classées comme oncogènes et qui, simplement sur la base, qu'elles empêchent la reconnaissance par le système immunitaire ?
Non, mais on pourrait effectivement les... c'est un aspect un petit peu sémantique, mais effectivement, oui, pourquoi pas.
Merci beaucoup.